Vous écoutez RTL.
Les dirigeants des deux Corées vont donc se rencontrer sur la ligne de démarcation militaire. Sommet historique, dit-on. Un rendez-vous pour la paix. Et nous allons vous expliquer pourquoi.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Cette rencontre est-elle vraiment historique?
Alors elle est historique. C'est le troisième sommet intercoréen après ceux de 2000 et 2007. Mais c'est surtout la première fois depuis 1953 qu'un dirigeant nord-coréen passe au sud. Donc on a eu cette poignée de main sur la frontière, une poignée de main côté sud-coréen, mais de façon un peu moins protocolaire, puisque ce n'était pas prévu, une poignée de main côté nord-coréen, lorsque le dirigeant Kim Jong-un a invité le président sud-coréen à passer au nord quelques secondes pour se serrer la main.
Donc il y a eu deux fêtes ce matin, un événement qui n'était pas prévu en tant que tel et qui marque l'histoire contemporaine.
Effectivement, puisque pendant quelques secondes, quelques minutes, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de frontières entre les deux Corées.
Comment s'est préparé, comment s'est monté ce sommet, à qui doit-on rendre hommage en quelque sorte, aux deux présidents?
Alors avant tout, aux deux protagonistes. Premièrement, le président sud-coréen qui est arrivé au pouvoir en mai 2017 et qui a tendu la main à la Corée du Nord, notamment dans un discours extrêmement important prononcé en Europe, à Berlin, en juillet 2017. Et puis également au côté nord-coréen, puisque Kim Jong-un a changé la stratégie du pays à partir de la fin de l'année dernière. Il a décidé de mettre moins l'accent sur l'arme nucléaire, mais davantage l'accent sur l'amélioration des relations et l'économie.
Vous savez que le président du CIO, le comité olympique, dit que c'est aussi grâce aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang que les deux présidents vont poursuivre cet élan olympique et qu'ils ont contribué en quelque sorte à cette paix.
Alors le CIO a pu y contribuer en apportant une tribune aux deux dirigeants. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que les JO ont été utilisés par le Nord comme par le Sud pour mettre en scène ce rapprochement.
Alors, ce qui est marquant, c'est que vous nous l'avez rappelé, c'est le troisième sommet intercoréen. Mais la grande différence cette année, c'est que la Corée dispose désormais de capacités nucléaires et balistiques, ce qui change tout.
Exactement, et surtout sur le plan balistique, ouais. La Corée du Nord, l'année dernière, a testé pour la première fois des missiles qui, théoriquement, pourraient toucher non pas les intérêts américains en Asie, mais bien les territoires américains dans le Pacifique, ouais. Et même le continent américain. Et c'est notamment une des raisons qui explique aujourd'hui l'importance du sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis qui aura lieu, lui, dans quelques semaines.
Alors, est-ce que Donald Trump va effectivement rencontrer celui qu'il appelait Rocketman il y a encore quelques temps? Et est-ce que ça n'est pas aussi, pour le président américain, une victoire diplomatique?
Alors, c'est une victoire diplomatique côté nord-coréen, puisque oui. Les dirigeants nord-coréens ont toujours tenté de rencontrer un président en exercice américain, et les Américains avaient toujours refusé. Et côté Donald Trump, c'est également une victoire, sauf qu'il va falloir transformer ce coup politique en victoire diplomatique. Et pour cela, il sera très très important d'avoir une déclaration conjointe qui mentionne notamment et évidemment la dénucléarisation de la Corée du Nord.
Il y a encore quelques semaines, on avait l'impression que la péninsule était effectivement au bord de la guerre. Et depuis ce matin, on parle de paix, si je vous comprends bien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la Corée du Nord a annoncé fin 2017 qu'elle avait complété ses forces nucléaires. À partir de ce moment-là, la Corée du Nord n'a plus rien à gagner politiquement, c'est-à-dire vis-à-vis de sa propre population, à continuer à tester des missiles balistiques et des armes nucléaires. Kim Jong-un a donc décidé de ne plus tester et de se concentrer sur un rapprochement avec ses voisins et sur le développement de l'économie. Il faut bien comprendre que depuis 2013, la stratégie officielle de la Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle la ligne Pyongjin, le développement simultané des capacités nucléaires, mais aussi des capacités économiques du pays.
Antoine Bondaz, peut-on imaginer ce matin une déclaration de paix, au sens premier du terme, parce que la paix se déclare comme la guerre, entre les deux Corées?
C'est l'objectif en réalité du président Moon Jae-in qui met sur un même plan la dénucléarisation de la Corée du Nord et l'instauration d'un régime de paix entre les deux Corées. La paix, entre guillemets, est quelque chose qui est recherché par la population sud-coréenne. Elle permettrait de réduire partiellement les dépenses militaires, notamment en Corée du Sud, mais aussi en Corée du Nord. Et tout le monde a un intérêt, aujourd'hui et dans les mois qui viennent, à ce que les tensions entre les deux Corées se réduisent au maximum.
Mais on peut imaginer aussi que la Corée du Nord accepte de dénucléariser. C'est-à-dire que vous venez aussi de nous expliquer que c'est parce qu'elle est allée au bout de son processus nucléaire qu'elle peut aujourd'hui tendre la main.
C'est justement pour cette même raison qu'il est très difficile d'imaginer que la Corée du Nord, à court terme, va se dénucléariser. Aujourd'hui, les armes nucléaires en Corée du Nord, elles font partie de l'identité du régime. Elles ont été utilisées par Kim Jong-un depuis plus de 6 ans comme un outil de légitimation considérable pour un jeune dirigeant qui arrive au pouvoir alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, qui a succédé à son père dans une transition qui a duré moins de 3 ans. Et les armes nucléaires sont en Corée du Nord et normalement elles vont être là pour rester très longtemps.
Une dernière question, que peut-on attendre de la rencontre avec Donald Trump ?
L'objectif pour le président américain va être d'avoir des engagements de Kim Jong-un, des engagements à long terme sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il y aura très certainement une déclaration conjointe. L'objectif, par contre, ce sera de transformer cette déclaration conjointe en objectif technique, en déclaration technique de démantèlement des capacités nord-coréennes. Et là, on est parti pour des négociations qui vont durer des mois, voire des années.
Du point de vue des États-Unis, des deux Corées, de la communauté internationale, ce que nous vivons ce matin et les éléments d'éclairage que vous nous donnez étaient absolument inimaginables il y a encore quelques mois.
Effectivement, fin 2017, on parlait de potentiel de guerre dans la péninsule coréenne, d'une potentielle intervention même militaire.
On vous a reçu à ce sujet, à ce micro.
Effectivement. Désormais, la Corée du Nord a complètement changé sa stratégie. Ça ne veut pas dire qu'elle est prête à se dénucléariser, mais ça veut dire que Kim Jong-un considère qu'il faut apaiser les tensions pour gagner du temps et surtout de son côté pour se concentrer sur le développement de l'économie nord-coréenne.
Merci beaucoup Antoine Bondage. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci de nous avoir fait partager ces éléments qui sont effectivement historiques ce matin. Bonne journée à vous.